Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud. Traité Choulin, page 117, Daf Kuf Yud Zayin. Bonne écoute et bon limoud.
Encore une fois, donc, relève-moi à l'inbo. On peut transgresser l'interdiction de Meïla, c'est-à-dire de profaner ce qui est consacré à Kadosh Baruch Hu. Bien entendu, il s'agit ici de la graisse relève d'un animal qui a été consacré pour être un sacrifice. Chayavin alav mishum pigul venotar etame. Et si on consomme une partie de graisse d'un tel animal consacré qui était rendu invalidé, soit à cause de pigul ou de notar ou de tamé, nous avons il y a peu rappelé la définition de ces causes d'invalidité des corbanotes. Donc on a transgressé, bien qu'on n'a pas mangé la viande, mais seulement la graisse. Machemken, mesdames, ce n'est pas le cas pour le sang. Autrement dit, le sang des animaux consacrés au sacrifice n'ont ni de Issur Meïla, ni on est chayav lorsqu'on en consomme, alors que l'animal a été rejeté parce qu'il est pigoul ou notar ou tamé. Vechomer, mesdames, mais il y a également un côté plus strict dans l'interdiction du sang. Shadam noegubem avechayavaof, l'interdiction de consommer le sang s'applique aussi bien au sang des animaux domestiques, des animaux sauvages et des volailles, des oiseaux, peu importe s'ils sont cachers ou non cachers, tandis que l'interdiction de chélev, c'est strictement limité aux animaux, aux quadrupèdes, un béma domestique et pur. Et la Gemara dit, mana anemile. Nous savons-nous cela, c'est-à-dire nous savons-nous que même la graisse des Kodashim, il s'agit en fait de la catégorie de Kodashim Kalim, peut être interdite au titre de Meïla, que celui qui en consomme par inadvertance doit amener le Hacham Meïla, etc. Amar Rabbi Yanaï. Rabbi Yanaï a répondu à cette question. De Amar Kera. Le verset 10, c'est un verset qui est dans Vayikra, dans le chapitre 4, et c'est le passage 10. Kaasher Yuram Mishor Zemach Hashelamim. De la même manière qu'on aura prélevé du taureau qu'on apporte pour faire un sacrifice de remerciement chez l'amim. Rima la madnou mishor zevach hashlamim. Mais attends, qu'avons-nous donc appris de particulier concernant le taureau qu'on apporte en chez l'amim et qui concerne le taureau du Kohen Gadol en fait. Arezeba le lamed. Apparemment, on vient nous apprendre quelque chose concernant le Khatat du Kohen Gadol, comme le montrent les versets que je n'ai pas cités en intégralité. Benimsa Lamed. En fait, c'est ce passage lui-même qui va nous apprendre, qui va apprendre quelque chose. C'est-à-dire, au lieu que ce verset vienne nous enseigner quelque chose, on va apprendre quelque chose concernant ce Shor Zevar Hashlamim. Makish, Shor Zevar Hashlamim, le Far Kohen Mashiach. Le verset fait une comparaison, un Ekesh, entre le taureau de Shlamim et, enfin Shor, excusez-moi plutôt, le bœuf de Zevar Hashlamim et le taureau du Kohen qu'il apporte, le Kohen qui était loin, le Kohen Gadol. Ma part Kohen Mashiach Yisbo Meïla. De même que pour le taureau du Kohen Gadol, il y a une notion de Meïla. Ap Shor Zevar Shlamim Yisbo Meïla. De même, le bœuf qu'on apporte à titre de Shlamim, il est également soumis à l'interdiction de Meïla. Est-ce que tu trouves l'aide, la preuve que Rabbi avait apportée, c'est-à-dire la Braïta que Rabbi a enseignée? Il y a un verset qui dit dans Vayikra, 3e Perek, verset Tetzayin, Kol Chelev Hashem, toute graisse est pour Hashem, et Rabbi a dit, ce col vient le rabot émouré, Kodashim Kalim Limeila. Ceci vient inclure que même les parties que l'on fait brûler sur l'autel des Kodashim Kalim, on peut transgresser la Meïla si on en profite. Amar Baya, Baya a répondu, Itztarich, on a besoin des deux enseignements. C'est-à-dire que ce n'est pas un rejet de ce qu'a dit Rabbi de la part de Rabbi Khalina. Deikatav Rahamana Chelev, car si l'Akadosh Baruch Hu avait écrit Chelev, Ava Amina, j'aurais pu dire Chelev In. Le chélev proprement parlé, oui, il y a meïla. Yot eret ushtech layot. Mais les autres parties que l'on brûle, par exemple le diaphragme et les deux reins, là, ils ne sont pas soumis à meïla. Rachamana. C'est pourquoi Kadosh Baruch Hu a inscrit Kaasher Yuram, la même chose qui aura été prélevée. Inversement, Veil Katav Rachamana Kaasher Yuram, mais si Kadosh Baruch Hu n'avait écrit que Kaasher Yuram, tout ce qui est prélevé, etc. Avamina, j'aurais pu penser, Relève Alia de l'état Beshor, là, que la graisse qui est dans la queue, qui ne fait pas partie des parties que l'on fait brûler dans un bœuf, pour la bonne raison qu'ils n'ont pas cette queue grasse. Elle n'est pas soumise à la Meïla, même s'il s'agit de la queue d'un mouton. Alors que c'est amené sur le Misbéar quand il s'agit d'un mouton. C'est pourquoi Kadosh Baruch Hu a écrit également dans un autre verset, Kol Chelev, toute graisse. Amar le Rav Mari le Rav Zvid, Rav Mari a demandé à Rav Zvid, I alia I kerei Chelev, titsar ba achila. Si la graisse de la queue est appelée Chelev, elle devrait être interdite à la consommation. Amarle, il lui a répondu, Alecha Amarka, c'est pour toi, c'est-à-dire pour répondre à cette objection, que le verset dit, c'est dans l'interdiction de Chelev, et c'est dans le 7e chapitre de Vaikra, Pasuk, Kav Gimel, 23, Kol Chelev, Shor Vechesev Vaez, tout Chelev du bœuf, du mouton ou de la chèvre, d'avoir achabé Shor Vechesev Vaez. C'est un genre de hekesh et on ne prend que ce qui existe également chez les bovidés, chez les moutons et chez les caprins, chez les chèvres. Quoi. Et ce qui n'est pas le cas évidemment de cette queue qui n'existe que chez les moutons. Rav Ashi Amar, autre réponse, celle de Rav Ashi. Chelev Alia Ikraï. Cette graisse de la queue s'appelle Chelev Alia. Avec le complément. Chelev stama lo ekrei. Il ne s'appelle pas de chelev sans autre précision. Et la Torah n'a interdit que le chelev sans autre précision. La Gemara n'accepte pas cela et la meata lo imalova. Si tu dis que ça ne s'appelle pas chelev, on ne devrait pas être passible de meila en profitant, puisqu'il est marqué que le chelev la chem, c'est marqué chelev sans modification. Et là, mechovarta kidravzid. Mais la bonne réponse à la question de savoir pourquoi on a le droit de consommer la graisse de la halia, c'est celle qu'avait donnée Ravzi. Revenons à la Mishnah qui disait « Machéen ken bedam ». Il n'y a pas ces mêmes aspects stricts en ce qui concerne le sang, c'est-à-dire que on n'a pas de meïla, ni de pigoul, ni de nota, ni de tamé. La Gemara demande « Menahan emile », d'où le sait-on ? Amaroula, où l'a répondu ? Amarkra lachem. En ce qui concerne le sang des korbanot, c'est marqué « Vani natati lachem ». À la misbeach le chaper, c'est lachem yehe. Le mot lachem implique également, bien que ce ne soit pas la seule raison pour laquelle ça figure dans la phrase, qu'il vous appartient, autrement dit, s'il vous appartient, il n'est pas sujet à Meïla qui, par définition, est le fait de jouir de quelque chose qui appartient à Akadosh Baruch Hu. De Berbi Ishmael Tana, dans la Yeshiva de Rabbi Ishmael, on enseignait une braïta répondant toujours au même problème. Le chaper, c'est marqué dans le même pasouk, le chaper pour. Pardonner, le chapara natatif, le lo l'imaïla, ce sang est destiné au pardon et non pas à vous causer une profanation. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan lui a dit, Amarkra, un verset dit, toujours le même verset, où nous continuons donc d'Afkouf Yudzaïn 117 au milieu, plutôt un peu vers le bas de la page, l'opinion de Rabbi Yochanan qui amène, donc je reprends le verset, donc, il est marqué où dans le pasouk, c'est ce que dit de Rabbi Yochanan. Amarkra où il est. Où l'ifne chapara, kilachar kapara. Il est dans le même état après le pardon qu'avant le pardon. Malachar kapara en bomeila. De même qu'après le pardon, le sang qui reste ne peut pas être frappé d'interdiction de meila. Parce qu'il n'y a jamais de meila une fois que la kapara a été faite. De même, avant la capara, il n'est pas non plus si jamais il a, puisqu'il y a un roux également avant la capara, dans le passé. Agma s'oppose à cela en disant, Vehema, pourtant je pourrais dire, Oulacha capara, Klifne capara, j'aurais pu inverser le raisonnement et dire que, exceptionnellement, ce sang, il est dans le même état après le pardon qu'avant le pardon. Malifne capara et bomeila, de même qu'avant que le pardon soit obtenu, le sang est normalement, pourrait être normalement, dans cette hypothèse, si jamais il a. Aflacha capara et bomeila. Le sang serait soumis à l'interdiction de Meïla, même après le pardon. Elle répond, « En achdava shenesa mitzato moalimbo. » Il n'y a aucun cas où quelque chose a déjà été l'objet de la mitzvah pour lequel il a été prévu dans le cadre du sacrifice, et que l'on puisse transgresser l'interdiction de profanation de Meïla à son sujet. Elle m'a dit, vélo, ah bon, il n'y en a pas, l'arrête au matin des chaînes. Et pourtant, le prélèvement des cendres que l'on prend de Mizmea, de Nahasa Mitzvato, où la mitzvah a été accomplie, au Moalimbo, et malgré tout, il y a une interdiction de Meïla, dirent-ils, puisqu'il est écrit dans un pasouk, toujours de Vayikra, dans le chapitre 6, voire le premier psukim du chapitre 6 de Vayikra, le Samo Etzel Amizbeach. Il mettra cette cendre qu'il aura descendue près du Mizbeach. Comme l'expliquera sur le fait de le mettre à côté du Mizbeach, où il doit être absorbé par le sol là-bas, cela veut dire qu'il est interdit d'en tirer un profit, puisqu'on doit le laisser là-bas. L'Agmara répond, Mishum d'avait Trumata de Shenobirde Kouna, parce que ce cas particulier, les cendres qui venaient de la consommation sur l'autel et de Bigde Kouna, les vêtements du Kohen Gadol Yom Kippour, pour lesquels également il reste interdit. Shnek Tuvin Abayn Kechad, ceci représente deux versets qui viennent enseigner la même chose, c'est-à-dire une loi qu'après l'utilisation, ils sont encore interdits. Chol Shener Tuvin Abayn Kechad en Melamedin. Chaque fois qu'il y a deux textes parallèles, comme on l'a vu relativement récemment, qui viennent enseigner la même chose, on ne peut pas l'étendre aux autres cas. Ça va bien après les Chachamim qui, à propos des vêtements du Kohen Gadol, disent que ce qui est marqué dans la paracha de Acharemot, qu'après la Avoda, il les mettra là-bas, c'est-à-dire qu'il doit les laisser là-bas définitivement. Et donc, c'est exact qu'il y a une interdiction de Meïla pour les habits du Kohen Gadol après leur usage. Et là, le Rabbi Dos Sida Amar, mais pour Rabbi Dosa qui dit, cela va simplement dire qu'il ne doit pas les utiliser lui-même, le Kohen Gadol, un autre Kippour, mais sous-entendu qu'on pourrait le donner pour l'usage d'un Kohen ordinaire pendant l'année. Maïk Alememar, d'après cet avis, qu'est-ce que l'on peut répondre? Et là, mais, Dagmar va donc prouver différemment le fait qu'on ne puisse pas étendre ce problème de Meïla après la Avoda, après la Mitzvah. Mishum Davaï Trumata Deshen, Vegla Arufa, Shneiktuvin Abin Kechad. Parce que Trumata Deshen, dont on a déjà parlé, et les dispositions concernant la génisse, dont on aura cassé la nuque en cas de meurtre, ce sont deux enseignements qui sont parallèles, qui viennent apprendre la même chose. Et la même règle, Vechol Shneiktuvin Abin Kechad en Melamedin. Chaque fois qu'on a deux versets qui viennent enseigner la même chose, on ne peut pas les extrapoler, les étendre à d'autres cas. La Gemara dit, d'accord, ah, necha, ceci est bien, le manda, amar, el malamedin, d'après l'opinion de celui qui pense qu'effectivement, quand il y a deux versets parallèles, on ne peut pas apprendre de l'un ni de l'autre. Et là, le manda, amar, el malamedin. Et d'après celui qui dit qu'on peut apprendre, maïk alemema, qu'est-ce que l'on peut objecter? Autrement dit, pourquoi ne dirait-on pas la même chose du sang? La Gemara répond, très, et nous avons ainsi terminé le hamouda le vidaf, Kouf Yudzaïn, Udaf 117, nous tournons la page.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Donc le Hamoud Bet du Daf Kouf Yudzaïn, reprenons le dernier mot. Très mi-outé ktivé, il y a deux mots supplémentaires qui viennent pour exclure. Acha, ici en ce qui concerne les cendres du Mizbeach, Ktiv, il écrive Samo, et c'est la Mizbeach. On le mettra, c'est-à-dire ce tas de cendres, lui, sera mis près du Mizbeach. Ceci vient exclure d'autres choses qui seraient encore, mais où il y a encore Meïla, après que la mitzvah ait été faite. De même pour la génisse décapitée, c'est marqué Ha'arufa. Ha'arufa. Celle qui est décapitée et pas une autre. Ceci exclut également un autre cas où on aurait pu imaginer qu'il y ait Meïla après que la mitzvah ait été faite. Donc cela répond au problème de celui qui dit qu'on n'a pas le principe que Shnei Ktuvin Abayn Kechad en Melamedin. Maintenant la Gemara pose une autre question concernant le fait qu'on a eu trois psukim sur le dam. Recitons le pasouk qui est dans Vayikra, chapitre 17, le pasouk 11, et qui concerne l'interdiction du sang. Et là-bas, la Torah écrit « Ki nefesh abbasar Madame, Yivani Natative, Lachem, j'insiste sur le mot Lachem, à la misbeach, le chaper anasotechem, le chaper, qui Adam, ou, ben effet, c'est chaper. Et donc, comme l'explique Rashi, il y a trois mots à partir duquel on exclut d'autres situations. Il y a le mot Lachem, le mot le chaper, le mot ou. La Gemara dit, Chad le muté minotar, c'est-à-dire que si dans un korban on a dépassé la date limite de consommation et que quelqu'un en a consommé, que ce soit du sang ou du notar et qu'il en ait mangé, il n'est chayav que à titre de dame et il n'y a pas à se surajouter là-dessous le issour de notar. Et puis Chad le miuté mimeila, l'autre pour dire qu'il n'y a pas de issour de meila, ce qui était justement notre objectif, et l'autre pour dire qu'on n'est pas chayav lorsque c'est tamé, c'est-à-dire que si on l'a mangé en étant tamé, le Kohen est tamé, il en a consommé de ce sang, et non chayav le mesum dam. Rachidin n'est passible qu'au titre du dam. Et l'Akma ajoute, aval mi pigoul otsarichkera. Mais en ce qui concerne le pigoul, il n'était pas nécessaire d'avoir un verset supplémentaire. Pourquoi? Parce qu'on a un principe qui a été énoncé dans une Mishnah de Zvachim au Daf, même Gimel Amud Aleph, et qui dit la chose suivante. Kol sheyeshlo matirin, ben la adam, ben la misbeach, haevin alav misum pigoul. Celui qui dépend d'un matir, c'est-à-dire de quelque chose qui doit être approché du misbeach, pour qu'il soit autorisé soit à la consommation des Kohanim, d'Adam ou des Baalim, des propriétaires du Korban, soit pour être brûlé sur le misbeach, chayavin alav misum pigoul. On est éventuellement passible de pigoul. Dame gouffet. Or, le sang est lui-même matirou. Lui-même vient autoriser, lorsqu'il a été aspergé, la consommation, et il ne dépend pas lui-même d'un autre matir. Et donc, en ce qui concerne dame en tant que matir, évidemment, c'est une soubia de Zvachim et pas de Khoulin. En ce qui concerne le sang lui-même, il n'a pas besoin d'un matir pour être exclu de la loi de Pigoul. C'est pourquoi on n'a pas besoin de plus de trois exclusions. Pigoul est exclu pour des règles internes au Korbanot. Et ainsi, Adran Alach Kolabassa, nous avons terminé le Perek de Kolabassa.
Avant de commencer l'étude du 9e Perek, nous ferons une petite introduction pour nous familiariser avec le sujet. Ce 9e chapitre parlera des lois d'impureté. Il sera question essentiellement de deux types d'impureté. La première est ce que la Mishnah appelle Tumat Nevelot, l'impureté des cadavres animaux. Le cadavre animal est en effet source d'impureté. Celui qui le touche devient impur, comme le Passouk le dit dans Vaïkra Yudalef, celui qui porte un cadavre animal deviendra impur, ainsi que les habits qu'il portait à ce moment. Pour transmettre cette impureté, il faut qu'il y ait impérativement un volume équivalent à celui d'une olive de chair de ce cadavre animal. Ce qui n'est pas considéré comme étant de la chair, par exemple la peau de l'animal ou les os, etc., ne s'associe pas pour compléter le volume équivalent à celui d'une olive pour transmettre cette impureté. Cependant, pour devenir impur, il n'est pas nécessaire de toucher la chair de l'animal, mais en touchant ce que l'on appelle chomer, enveloppe de protection, dans notre cas par exemple, la peau de l'animal, l'homme, l'ustensile ou l'aliment en question deviendront impurs. Ou bien en touchant ce que l'on appelle yad, le manche, par exemple un os au bout duquel il y a un volume équivalent à celui d'une olive de chair, l'os est considéré comme étant yad, c'est-à-dire manche. En effet, on s'en sert pour porter la viande. En touchant cet os, l'homme, l'ustensile ou l'aliment en question deviendront impurs. La deuxième notion d'où nous parlerons est celle que la Mishnah appelle Tumatochlim, l'impureté des aliments, c'est-à-dire l'impureté transmise ou reçue par des aliments. Pour qu'un aliment soit susceptible de devenir impur ou de transmettre l'impureté, il faut qu'il y ait impérativement un volume équivalent à celui d'un œuf. Ce que l'on appelle chomer, c'est-à-dire enveloppe de protection, comme la pelure d'un fruit, s'associe pour compléter ce volume équivalent à celui d'un œuf pour que l'aliment soit susceptible de devenir impur ou de transmettre l'impureté. Mais ce que l'on appelle yad, c'est-à-dire manche, comme la tige d'un épi de blé qui sert à le transporter, ne s'associera pas pour compléter le volume d'un œuf. Par contre, en ce qui concerne la transmission de l'impureté, soit ce que l'on appelle chomer, enveloppe de protection, soit ce que l'on appelle yad, manche, comme la tige d'un épi de blé, seront susceptibles de transmettre l'impureté, soit à l'aliment lui-même, soit d'un aliment à l'autre, bien qu'ils ne soient pas considérés eux-mêmes comme aliments, et ils ne peuvent pas être mangés. Alors la Mishnah dit, Haor, la peau d'un animal sur laquelle est attaché un morceau de chair, dont le volume est moins que celui d'un œuf, cette peau rentre dans la catégorie de chomer, enveloppe de protection, Veharotev, et la gelée, c'est le jus de viande qui a gelé sur la viande. Cette gelée n'est pas considérée comme étant un aliment, mais elle se mange en même temps que la viande. Vehakipa et les épices qui ont servi à la cuisson de cette viande, ils ne sont pas eux-mêmes considérés comme des aliments, mais se mangent en même temps que la viande. Vehaalal et le gros tendon du cou, qui ne se mange pas tout seul, mais peut être mangé en même temps que la viande. Vehaatsamot et les os à moelle, l'os rentre donc dans la catégorie d'enveloppe de protection. Vehagidin et les nerfs, vehakarnaim et les cornes. La Gemara expliquera que nous parlons de la base des cornes qui peut être mangée en même temps que de la viande. Vehatlafaim et les sabots, eux rentrent dans la catégorie de chomer, enveloppe de protection, parce qu'ils protègent la base du pied. Donc, toutes ces parties de l'animal, mitstarfim letamet umatochlim, s'associent avec la chair pour compléter le volume d'un œuf pour recevoir ou transmettre l'impureté des aliments. Aval lotumat nevelot, mais ce que la Mishnah a énuméré plus haut ne s'associe pas à la chair de l'animal pour compléter le volume d'une olive pour transmettre l'impureté du cadavre animal. Et cela parce que, comme nous l'avons dit dans l'introduction, la catégorie de chomer, enveloppe de protection, ne s'associe pas pour compléter le volume d'une olive pour transmettre l'impureté du cadavre animal. Et les autres parties mentionnées dans la Mishnah, par exemple la gelée, les épices, les tendons, etc., ne sont pas considérés comme étant la chair de l'animal. Par conséquent, ils ne transmettent pas l'impureté du cadavre animal. Kayotsebo, il en est de même. C'est-à-dire, il existe d'autres situations où l'impureté des aliments peut être transmise ou reçue, mais celle du cadavre animal ne peut pas être transmise ou n'existe pas. Hashochet behemat me'alovet kochavim, celui qui égorge un animal impur, donc interdit à la consommation, pour un goy, pour qu'il puisse le manger, ou me farkeset, et cet animal frétille encore, c'est-à-dire il n'est pas encore mort, mais tam'a tumat ochlin, la chair de cet animal est susceptible de recevoir ou de transmettre l'impureté des aliments, et cela bien que l'abattage rituel n'existe pas pour l'animal impur, et d'ailleurs même le goy n'aura pas le droit d'en manger jusqu'à ce que l'animal meure. Cependant, puisque c'est un Israël qui l'a fait, et l'abattage rituel d'un Israël permet un animal, permet à la consommation, même tant qu'il frétille encore, cet animal impur égorgé par un Israël sera considéré comme étant un aliment, même lorsque l'animal frétille encore. Cependant, si c'est un goy qui l'a égorgé, alors que chez le goy il n'existe pas d'abattage rituel, ou bien même si c'est un Israël, mais l'abattage n'a pas été effectué correctement, la chair de cet animal ne sera pas considérée aliment jusqu'à ce que l'animal meure entièrement. Aussi, si cet animal a été égorgé pour un Israël, puisque cet animal lui est interdit, cette intention ne servira à rien. Par conséquent, l'animal ne sera pas considéré comme étant un aliment jusqu'à sa mort certaine. Il ne sera pas nécessaire de dire que si un Israël a égorgé un animal pur, donc permis à la consommation, que celui-ci sera considéré comme étant un aliment, même lorsque l'animal frétille encore. Donc, un Israël qui égorge un animal impur pour un goy, et cet animal frétille encore, est considéré comme étant un aliment, la chair sera donc susceptible de recevoir ou de transmettre l'impureté de la nourriture, avalot ou matnevelot, mais la chair de cet animal ne transmettra pas l'impureté du cadavre animal, achetamut, jusqu'à ce que l'animal meure entièrement, ou achetizet rocha, ou bien jusqu'à ce qu'il lui coupe entièrement la tête. À ce moment-là, l'animal sera considéré comme étant un cadavre animal et transmettra l'impureté. Riba letame tumatochlim, le pasouk a inclus plus de cas où il est possible de recevoir ou de transmettre l'impureté de la nourriture, mima sheriba letamet umat nevelot, que les cas inclus par le pasouk où il est possible de transmettre l'impureté des cadavres animaux, comme nous l'avons vu par exemple précédemment. Rabbi Yehuda Omer, ha'alal ha'mechunas, comme nous le verrons dans la Gemara plus loin, le terme de halal selon Rabbi Yehuda veut dire de la chair qui est restée sur la peau après le dépeçage. cette chair est considérée comme étant annulée à la peau. Maintenant, ce que Rabbi Yehuda vient dire, c'est que si une personne a rassemblé cette chair, donc il l'a grattée de la peau, im yesh bo kezait bemakom echad, s'il a recueilli un volume équivalent à celui d'une olive dans un endroit, il lui a donc accordé de l'importance, cette chair provenant d'un cadavre animal transmettra l'impureté du cadavre animal. Par conséquent, Chayabalav, il sera coupable, en ayant touché cette chair, d'avoir transgressé une interdiction s'il est rentré dans le Beth Amikdash ou s'il a mangé de la viande d'un korban après avoir touché cette chair qu'il a ramassée. Nous avons vu dans la Mishnah donc que le principe de Shomer, enveloppe de protection, existe pour l'impureté transmise ou reçue par les aliments. L'enveloppe de protection s'associe avec la nourriture pour compléter le volume équivalent à celui d'un œuf pour recevoir ou transmettre l'impureté des aliments. Mais pour l'impureté du cadavre animal, le principe de l'enveloppe de protection n'existe pas, c'est-à-dire l'enveloppe de protection ne s'associe pas pour compléter le volume d'une olive pour transmettre l'impureté du cadavre animal. Alors l'Agmara dit là-dessus, Tanina Aleha, ceci a été enseigné dans une braïta d'Etanou Rabbanan, car il était enseigné dans une braïta Shomrim le Tumakala. Il existe le principe d'enveloppe de protection pour l'impureté légère, Velo Shomrim le Tumak Khamura, mais le principe d'enveloppe de protection n'existe pas pour l'impureté grave. Alors l'Agmara demande, Shomrim le Tumakala Menalan, d'où sait-on que le principe d'enveloppe de protection, que celui-ci s'associe à la nourriture pour compléter le volume nécessaire pour l'impureté légère, c'est-à-dire pour recevoir ou transmettre l'impureté de la nourriture. L'Agma répond, « Detana de Rabbi Ishmael, car il était enseigné dans une braïta, dans le Beit HaMidrash de Rabbi Ishmael. » Cette braïta interprète le pasouk dans Vaikra Yud Aleph, concernant l'impureté transmise ou reçue par la nourriture. Le pasouk dit, « Si le cadavre d'un reptile mort tombe, alcool, zera, zeroua, etc., sur toute graine de semence, cette graine restera pure, parce qu'elle n'est pas encore susceptible de devenir impure. » Le pasouk poursuit en disant, « Si de l'eau tombe sur les graines, puis le cadavre d'un reptile mort est tombé dessus, les graines seront impures. » Alors lorsque le pasouk parle de graines, le pasouk veut dire que « derech shebne adam motzim lezria » Le pasouk parle de graines, comme les hommes ont l'habitude de les faire sortir pour les semer. C'est-à-dire « chita biklipata » On parle de graines de blé avec son enveloppe de protection, « usora biklipata » Et le pasouk parle aussi d'orge avec son enveloppe de protection, « ve'adashim biklipata » Ou bien de lentilles avec leur enveloppe de protection. Comme le précise le Tosfot, forcément, ce pasouk vient nous enseigner que l'enveloppe de protection de ces graines s'associe pour compléter le volume nécessaire pour recevoir ou transmettre l'impureté des aliments. Parce que, comme nous le verrons dans le daf suivant, il n'est pas nécessaire d'avoir de pasouk pour nous enseigner que l'impureté passe par l'enveloppe de protection, parce que cela, nous l'apprenons d'ailleurs. Nous avons vu dans la Braïta, Velo Shomrim le Tuma Hamura, le principe d'enveloppe de protection n'existe pas pour l'impureté grave. Alors l'Agmara demande Menalan, d'où le sait-on? L'Agmara répond de Tanoura Banan, car nos Chachamim ont enseigné dans une Braïta. Cette Braïta interprète le Pasuk dans Vaïka Yudalef concernant l'impureté du cadavre animal. Le Pasuk dit, celui qui touche Benivlata, son cadavre, deviendra impur. L'expression Benivlata exprime aussi une restriction. En effet, le Pasuk voudrait dire, son cadavre et pas autre chose. La Braïta interprète, Velo Beor Shenalav Kezait Basar, celui qui touche le cadavre deviendra impur, et non pas celui qui touche la peau de l'animal sur laquelle il n'y a pas le volume équivalent à celui d'une olive de chair. Dans ce cas, la personne qui touche cette peau ne deviendra pas impure.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.